Je reviens par rapport à la question du mal. Il y a beaucoup de questions que l'enseignement ce matin a suscité. Alors avant d'enclencher sur la vigne et les sarments, vous avez une vigne derrière moi. Je l'ai trouvée. Je vais lire Jean-Paul II. Le mal du XXe siècle n'a pas été un mal à petite échelle, il a été un mal aux proportions gigantesques, un mal qui s'est servi des structures étatiques pour accomplir son œuvre néfaste, un mal érigé en système. Jean-Paul II, il savait de quoi il parlait. Ça, ce mal-là, il ne vient pas de Dieu, hein, le mal ne vient pas de Dieu. Mais ce que je voudrais dire, le mal lié au péché. Dieu n'échappe pas pour autant à la toute-puissance de son amour miséricordieux. C'est là qu'il y a un équilibre à tenir. Parce que de penser que Dieu simplement permet le mal parce qu'il respecte la liberté humaine, si on en reste là, c'est désespérant. Le pouvoir de l'amour divin ne s'arrête pas là où commence le pouvoir du mal, comme dit Benoît XVI. Donc il faut réveiller notre foi, c'est-à-dire que même si Dieu respecte réellement et infiniment la liberté humaine, néanmoins tout est en sa main. Néanmoins il sait ce qu'il permet. Néanmoins sa miséricorde met des limites au mal. On le voit notamment dans le livre de Job, où le Satan est obligé de demander la permission à Dieu pour éprouver Job. Et Dieu met les limites, touche pas à sa peau. Dieu sait ce qu'il permet. Et il ne permettrait pas le mal, engendré par le péché, si dans son amour miséricordieux, il ne pouvait l'assumer, il a tout assumé sur la croix, il le peut assumer pour le transformer en bien. C'est pour ça que Jean-Paul II, après avoir évoqué ce mal aux proportions gigantesques, qui en définitive vient de Satan. Hitler avait fait un pacte satanique et Karl Marx, on a retrouvé un poème écrit à 19 ans dédié à Satan. Il n'a pas été inspiré par n'importe qui. Eh bien, en même temps, il dit que la grâce divine s'est manifestée avec une richesse surabondante, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il n'y a pas de mal dont Dieu ne puisse tirer un bien plus grand. Il n'y a pas de souffrance qui ne sache transformer en chemin qui conduit à lui. Voilà, la foi. Et donc se resituer devant ça, dans notre vie, nous permet de recevoir de fait les choses de la main de Dieu. Et le concile dit que les fidèles se sanctifieront dans toutes les circonstances de leur vie, à condition de recevoir par la foi toutes choses de la main du Père. C'est bien ce que Jésus a fait devant la trahison de Judas, le reniement de Pierre, la lâcheté de la foule et de Pilate. Il a dit, Père, si cette coupe peut passer loin de moi, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. C'est-à-dire, il a vu à travers tout ça la coupe que le Père lui présentait. Il a reçu de la main de Dieu toutes ces choses qui n'étaient que liées au péché. Tout ce qui t'arrive, accepte-le, dit l'Écriture ecclésiastique 2. Tout ce qui t'arrive, accepte-le. Mais, alors, mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve, fais-toi un cœur grand, arme-toi de courage, ne te laisse pas entraîner dans l'adversité. Attache-toi à lui, ne t'éloigne pas, tout ce qui t'advient, accepte-le. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire une mauvaise passivité qui fait qu'on va démissionner de ce qui dépend de nous. Ça veut dire simplement qu'on accepte d'être éprouvé. On accepte d'avoir à vivre une épreuve, d'avoir à traverser une injustice. On reçoit le moment présent, on accepte le moment présent. Ça ne veut pas dire qu'on qu'on va laisser les choses se faire comme ça, sans faire ce qui dépend de nous. Mais je le disais ce matin, on fera d'autant mieux ce qu'on dépend de nous, ce qui dépend de nous pour nous battre, que, au fond de notre cœur, il y aura cette humble acceptation de recevoir dans la foi les choses de la main de Dieu. Le Seigneur sait ce qu'il permet. Il a permis cette injustice, je vais faire mon possible pour rétablir les choses, et dans l'acceptation de l'épreuve. Ben, on est ému par un sentiment simplement d'injustice, de révolte, de colère, c'est pas normal. Non. J'accepte le chemin que Dieu me propose maintenant de vivre à sa suite. Moi, personnellement, face à des décisions qui allaient être prises me concernant, je vous dis, j'ai toujours écrit à l'évêque pour dire pourquoi je n'étais pas d'accord, et ça m'est arrivé de refuser purement et simplement ce que me demandait mon évêque au nom du droit canonique. C'est-à-dire qu'il y a un droit dans l'Église auquel l'évêque lui-même est soumis. Les abus de pouvoir, ça existe. Quand je perçois un abus de pouvoir, moi je suis implacable. Ça m'est déjà arrivé de conseiller à un confrère de faire un procès à son évêque, c'est permis par le droit canonique. On en appelle à Rome. Moi, je suis pas du tout mouton. Hein. Mais tout ce qui t'arrive, accepte-le. C'est sur fond d'acceptation. Maintenant, il y a des choses pour... Je pense à une personne qui est en train de divorcer, elle m'a dit que... Excusez-moi de parler de choses comme ça, c'est vraiment terrible. Elle s'est laissée sodomiser par son mari. Mais elle l'a fait dans une acceptation qu'elle n'aurait pas dû faire. Vous voyez, il y a vraiment... Ça, c'est vraiment... Et puis après, ça ressort en colère et puis ça aboutit à un divorce. Non, il faut refuser clair, net, ce qui est contraire à la loi divine. Quand un évêque commet un abus de pouvoir, ben c'est une faute, il y a une loi, on en réfère à la loi supérieure. Moi, je suis très pour la hiérarchie de l'obéissance. De toute façon, Dieu premier servi, Dieu premier obéi. Hein. Il faut savoir à qui on obéit. Des choses qu'on ne va pas accepter, évidemment, au nom d'une obéissance qui n'a pas de sens. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc, en définitive, on n'a qu'un seul maître, le Christ. Mais vous voyez, ces questions d'injustice, on doit tout faire pour rétablir, mais ça n'empêche pas de, au fond de son cœur, de dire « Seigneur, tu permets cette situation extrêmement, extrêmement éprouvante, eh bien, voilà, je vais la traverser avec toi et d'avancer sur un chemin d'abandon. » Mais l'abandon intérieur est là pour nous donner la force d'agir concrètement, mais d'agir avec le discernement que donne la sagesse à ceux qui mettent toute leur confiance, que Dieu donne à ceux qui mettent toute leur confiance en lui. Est-ce que j'ai bien dit les choses?
Tu voulais en rajouter?
Oui, je suis content que tu fasses cette précision, parce que ce matin c'était un point d'interrogation pour moi. Et donc cette différence qui me semble fondamentale entre l'acceptation et donc la passivité. L'acceptation n'est pas la passivité, et on est confronté tous dans nos vies constamment à des situations où voilà, ce sont des choses qui ne sont pas tout à fait du même ordre. J'aurais tendance à ajouter que la question de la réaction quand on est personnellement concerné peut être relativement facile jusqu'à un certain point. Ce qui peut être encore plus difficile, c'est quand ça touche des personnes dont on est responsable et qu'on est face à des situations qui sont insupportables. Je sais pas, je pense, je vais donner un exemple. Une mère de famille qui est soumise à la violence et ses enfants à la violence de son mari, qu'est-ce que je fais? L'acceptation, c'est quoi? Quel est le discernement que je vais avoir sur la décision concrète à prendre face à cette situation particulière? Elle peut avoir extérieurement pas une vision, une visibilité d'acceptation. C'est-à-dire, je me sépare. Objectivement, voilà, je vais habiter ailleurs. Apparemment, c'est pas d'acceptation, mais effectivement, comme ça vient d'être dit, il y a quelque chose qui est l'ordre de la décision que je prends humainement pour faire face à une situation qui est inacceptable. Et puis après, la façon dont je vis cette décision et dont je vis la relation à la personne qui est la cause d'eux, Voilà, et c'est deux choses différentes. Mais c'est vrai que dans notre vie, enfin, les choses ne sont pas simplistes, quoi. Et c'est vrai qu'on aurait tendance, enfin, moi, dans ma vie, j'aimerais bien que les choses soient calées une fois pour toutes, que ce soit simple, qu'il n'y ait pas de questions à se poser, qu'une situation donnée permette de dire, bon, ben, on réagit comme ça. Ben non, le Seigneur permet qu'il y ait une variété des situations qui soit absolument infinie, et on est constamment invité à remettre cette question à jour par rapport à chaque situation particulière. Donc voilà ce que je veux dire.
Moi, je rajouterais que il y a deux choses aussi auxquelles, enfin, sur lesquelles je travaille à ce sujet-là, c'est de dissocier le comportement, pas juste de la personne et la personne. Donc de pouvoir lui dire ton comportement là n'est pas juste, non pas de l'accuser. Donc pour moi, j'ai constaté que si je refoule mes sentiments et je ne laisse pas sortir ce qui a à sortir, pas devant la personne, mais devant le Seigneur, j'ai besoin de prendre conscience de ma colère, de mon mépris, des choses pas justes, etc., pour pouvoir les traverser avec le Seigneur et pour pouvoir dénoncer devant la personne la chose en ayant évacué tout ce qui n'est pas juste dans mon cœur, mais de dénoncer quand même le comportement. Et de dénoncer le comportement en ayant fait ce travail dans son cœur permet aussi de dissocier le comportement et la personne et de ne pas entretenir une haine cachée pour la personne, etc. Donc pour moi, ça c'est aussi important à analyser.
Alors, on est porté par la... On reçoit dans la foi en la miséricorde divine, toujours capable de tourner le mal en bien, on reçoit dans la foi les événements. Et cette foi peut nous amener même à vivre en tout dans l'action de grâce. Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en tout, soyez dans l'action de grâce, Saint Paul, c'est la volonté de Dieu sur vous dans Christ Jésus. Jésus, au moment de devoir vivre sa passion pour nous, juste avant de rentrer dans sa agonie, a pris le pain, le vin, je reviendrai anticiper son offrande dans l'action de grâce. Pris du pain, rendit grâce, et rend grâce pourquoi? Parce qu'il sait qu'à travers cette épreuve, il va pouvoir aimer jusqu'au bout. Nous savons qu'à travers toute épreuve, le bien le plus grand que Dieu veut tirer, c'est de nous faire grandir dans l'amour. Et nous pouvons d'avance rendre grâce dans la foi que Dieu a permis cette épreuve que pour nous faire grandir, permettre d'aller plus loin. Ça, c'est le top, voyez, d'un regard de foi. Plus souvent, on se contente de remercier après coup quand on voit les fruits. Moi, j'ai vu des personnes vraiment remercier Dieu pour des choses que, au départ, les révoltaient beaucoup, et puis on les revoit quelques années après, et remercier Dieu d'avoir permis cette épreuve pour les faire grandir, parce qu'ils en voyaient le fruit. Mais si nous avions une foi vraiment inébranlable, nous pourrions, comme le Christ, la veille de sa passion, rendre grâce dans la foi pour le bien que Dieu va tirer de cette épreuve. En tout, soyez dans l'action de grâce. Saint Paul dit, nous nous glorifions encore des tribulations. Je trouve ma gloire dans la croix, il a dit aussi. Hein? Glorifions dans la croix. Sachant bien que la tribulation produit la constance, la patience. La patience, la valeur éprouvée. L'OBJ traduit la vertu éprouvée. Il y a quelque chose qui est mûri, qui est éprouvé. La vertu éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. L'espérance ne déçoit jamais, parce que la croissance dans l'espérance aboutit toujours sur une croissance dans l'amour. Alors nous glorifions dans les épreuves, ça c'est dans un regard de foi, nous acceptons l'épreuve, et nous nous glorifions déjà parce que nous pressentons, nous avons cette espérance au fond de nous-mêmes que le Seigneur va nous permettre de mûrir. Il y a quelque chose qui va mûrir en nous, il y aura un fruit à la, je dirais, en proportion de l'épreuve. Ça, là, quand on en arrive là, bien, on en arrive à aimer la croix. C'est l'amour de la croix, c'est ce regard de foi, d'espérance qu'on a sur les épreuves. Et dans certains sens, ça prend une forme assez amusante. J'ai l'impression même l'expression de Salim Ariane Monfort, il avait fait une journée apostolique où tout allait bien, tout s'était bien passé. Il avait terminé en disant « Une journée sans croix, quelle croix ?» Parce qu'il y en a qui en veulent toujours plus. Vous voyez, des exercices pour... les épreuves sont la matière. La matière, on va le voir, dont Dieu se sert pour faire mûrir l'amour. Ça répond en même temps à une question d'une personne qui dit si on n'a pas d'épreuve, de grande épreuve, alors on reste en rade. Écoutez, un peu de patience, ça va venir. De toute façon, mes amis, on est tous dans la même barque, collective, je parle, au niveau de la société. Et la barque, elle ne va pas dans le. Elle ne va pas vers des temps faciles. Enfin, nécessairement traverser des tempêtes collectives. Donc on aura chacun notre part d'épreuve parce qu'on est solidaires des uns des autres. Donc même si au niveau familial tout baigne pour l'instant, moi, de toute façon, moi je vous prépare à l'épreuve. Alors, c'est mon rôle de pasteur. Je donne un enseignement qui fait que vous ne soyez pas pris par surprise quand ça arrivera. J'imagine rien, mais on ne va pas vers des temps faciles, c'est tout. Car regardez la réalité telle qu'elle est. Voilà. Le péché de la France, c'est l'orgueil intellectuel. Dieu abaisse ceux qui s'élèvent. Jusqu'où on descendra, on ne sait pas, mais enfin, il faudra remonter la pente dans l'humilité. Ça, c'est la guérison de la France, ça passera par l'humilité. Tant qu'on fait cocorico, c'est nous qui savons. On a. Découvre. Enfin, je ne suis pas un commentaire de politique. Voilà. C'est tout, je me retiens. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus a traversé tout ça et que c'est lui qui a vécu toute sa vie dans une confiance aveugle, totale en son Père et on peut dire évidemment dans un désir brûlant du royaume de Dieu. Et en réalité, il s'est fait homme pour se faire arbre. Parce qu'en fait, nous, on était des arbres aux racines pourries. Il fallait qu'il y ait un arbre qui soit sain, qui soit tout ouvert, tout tourné vers Dieu. Et Dieu, c'est comme dit Benoît XVI, mais c'est pas l'arbre ici. Il dit, dans le Fils, Dieu est devenu lui-même la vigne. Devenu la vigne. C'est un particulier qu'est la vigne. Il s'est pour toujours et ontologiquement identifié à la vigne. Cette vigne ne pourra plus jamais être arrachée. Parce qu'il dit ça dans le contexte d'Isaïe, disant ma vigne elle est mauvaise, elle porte de mauvais fruits, je vais l'arracher. Ce peuple il est infidèle, il est adultère, je vais l'arracher. Ça va pas, j'arrive pas à en trouver un peuple qui me donne du bon fruit. Ils sont tous pourris à la base, et ils croient pas, ils espèrent pas, il n'y a rien à faire. Donc, passer à faire une chose, c'est devenir moi-même la vigne. Alors, si l'arbre, c'est Jésus, nous on est quoi? C'est lui la vigne, nous, ben, on se greffe dessus. On est les arbres. Nous, en fait, on est les arbres. Que nos racines soient dans le Christ. Comme ça, le sarment, il n'a pas ses propres racines à lui. Racines du sarment, c'est les racines de la vigne. C'est pour ça que Saint-Pierre dit, le Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus le Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher, enraciné et édifié en lui. On est enraciné dans le Christ, parce que lui a ses racines en Dieu, le Père. Ça, la vie chrétienne. À ce moment-là, vous comprenez qu'on vit dans une dépendance totale à lui. C'est sa sève à lui. C'est sa vie à lui qui peut circuler. Non, on n'est pas capable de produire, on ne sait pas puiser, on ne sait rien faire. En fait, on est tous contaminés par notre orgueil et notre égocentrisme, incapables de produire un fruit délicieux, on se greffe sur le Christ. Alors, creusons l'image de la vigne. Alors, il y a une spécialiste dans la salle, qui est, comment on dit,
œnologue.
Oui, bon, moi, je ne suis pas spécialiste, en tout cas. Alors, vous me corrigez, mais ce qui est évident dans la production du vin, parce que c'est ça le fruit de la vigne, c'est que la qualité est plus grande quand la quantité est moindre. D'accord ? Bon. Juste, faire remarquer que le démon, lui, il joue toujours sur la quantité. Il fait toujours miroiter des grandes, grandes choses. Ça va être méga, méga. Oh, tout ce qu'on va arriver à faire, incroyable. Lui, ce plan-là, méga, la quantité. Lui, c'est la quantité. Jésus, c'est la qualité. Pour ça, il est obligé de diminuer la quantité. On a plus de concentration en sucre et en tanin. Vous savez ce que c'est le tanin ? Moi, j'ai découvert ça. C'est ce qui permet au vin de bien vieillir. Oui. Il faut que nos actions, il y ait du tanin. Enfin, il y a du tanin en nous pour que ça. Ce qu'on fait. Ça dure, puis ça.
Le tanin, c'est ce qu'il y a dans les tonneaux.
Non. Pas seulement. Alors, quand la terre est très riche, vous voyez, on est obligé de couper des grappes. On le fait début août. On coupe des grappes en gorgeur, parce qu'il y en a trop. Des grappes qui tombent à terre. Seigneur, il coupe. On en fait trop, il coupe. Voilà, déjà accepté. Tiens, je ne peux pas faire ça, j'avais mis. Coupe. Discute pas, je coupe. C'est 4 heures, c'est Dieu qui le tient, il coupe. Voilà, on arrête le vouloir faire à tout prix, le faire pour le faire. Bon. Ensuite, ça ne suffit pas. Il faut tailler les arbres. Alors, sarment, il pousse la première année. Il y a une jeune pousse, ça donne un jeune sarment qui donne 2-3 grappes maximum. Le sarment, il a poussé. On ne laisse pas pousser plus loin. On le taille pour l'année suivante. Seulement l'année suivante, il commence à donner un fruit de meilleure qualité. Tant qu'il n'a pas été taillé, bon, il a poussé une première fois, c'est bien. Mais si on le laissait pousser, plus, il dépenserait beaucoup, beaucoup d'énergie dans la pousse elle-même, et avec les feuilles et tout ça, et puis ça finirait par être productif, c'est-à-dire déjà la qualité serait moindre, et ensuite il s'épuise. Il y a un phénomène intéressant, comme a dit mon cousin, c'est que si on laisse vraiment une vigne se développer, vous voyez, beaucoup, alors au départ, ça va permettre à la vigne de porter encore plus de grappes, sont de moins bonne qualité, mais il en portera beaucoup. Ça va durer quelques années, et puis après, la vigne s'épuise et elle peut même mourir, le burn-out. La vigne, c'est un arbre qui fait du burn-out. Vous la laissez se développer comme ça, un arbre sauvage, comme ça, à un moment, c'est cool. Ouais. Non ? Le vigneron, il sait ce qu'il fait, il coupe, il est obligé de couper chaque année, il n'y a pas de. La vigne est un arbre qui se cultive. Il ne faut pas se laisser à l'état sauvage. Bien comprendre que nous, on est incapable de couper nous-mêmes les choses parce qu'on aime bien se développer. Je me réalise. Non, tu coupes, je coupe, nous coupons. Voilà. C'est 4 heures. Tout simplement, qui porte du fruit, dit Jésus. Alors, tout simplement, en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Alors, les serments qui ne portent pas de fruits, c'est plutôt ceux d'en bas. Ouais. Quand ça vole très bas, il n'y a qu'une chose à faire, c'est couper carrément le serment. On ne taille pas, on le coupe. Supprimer. C'est le truc qui pousse les rejets d'en bas. Vous voyez, les trucs machins qui en bas, coupe. Parce que les serments qui portent le plus de fruits, c'est les serments d'en haut. Donc, soit on coupe complètement, soit on taille, mais de toute façon, on laisse pas comme ça. Hein. Non. Et alors, tout serment, donc le serment en roi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, carrément. Et tout serment qui porte de fruits, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Un fruit qui demeure. Vaut mieux un fruit mûr, un seul. Vous voyez ? Que quantité de grappes, comme ça, qu'on accumule, et puis on ne sait pas quoi en faire, parce que ça va jamais donner du bon vin. Vous préférez quoi ? La quantité ou la qualité ? Bon. En tout cas, on ne peut pas avoir les deux dans la vie. Hein ? Alors, écoutez Jean-Paul II.
Ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est aussi le fait que enfin, j'essaie de suivre, mais je ne sais plus si c'est Jésus ou Dieu ou moi qui tient le sécateur. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de Dieu. Ça nous indique quand même des choses intéressantes.
Bah, il vaut mieux se laisser faire quand on est taillé comme ça. Si on se débat, c'est comme le chirurgien, il s'est fait son opération, si le patient reste calme, ça va se passer très bien, rapidement. S'il se gigote, non, mieux.
Oui, mais si on ne veut pas, il ne fera pas.
C'est purification passive.
Alors, les purifications passives actives, oui, non, ça, c'est-à-dire, il y a des purifications passives, c'est quand le Seigneur il touche à la racine du mal et il purifie dans le secret du cœur, par exemple, un fond d'orgueil, un fond de possession. Et ça ressemble un peu à un état dépressif, ça nous laisse tristes, sans goût. Et c'est un travail de fond. Qui est pénible, où on ne comprend pas, et qui n'est pas nécessairement lié à des événements particulièrement douloureux. Enfin, il peut y avoir un élément déclencheur, mais plus profondément, c'est quelqu'un qui travaille en profondeur à la racine, ça peut durer des années. Bon, mais quand je pense au sécateur, c'est plutôt l'événement qui fait qu'il y a un coup d'arrêt. Quoi. Et là, il faut comprendre la logique de Dieu. Il me donne des coups d'arrêt dans notre vie, il me ferme des portes que pour en ouvrir d'autres, mais c'est surtout pour en ouvrir d'autres vers une qualité plus grande. Regardez, Nazareth, il a coupé, et ça donne autre chose que moi, personnellement, je trouve que ça me permet d'aller plus loin. Vous voyez ? Et ça, c'était pas du tout prévu. C'était pas dans mes plans. Écoutez, Benoît XVI, les processus de purification, aussi douloureux que nécessaires, traversent toute l'histoire. Ils traversent la vie des hommes qui se sont donnés au Christ. Dans cette purification, les mystères de la mort et de la résurrection sont toujours présents. C'est ça notre espérance, que Jésus, il ne nous coupe pas sans avoir été lui-même le premier émondé, si je puis dire, sur la croix. En tout cas, tout ce qu'on traverse, il le traverse avec nous, il est solidaire, il est la vigne, elle est solidaire des serments, il nous porte, enfin bon, on n'est jamais seul dans ces épreuves purificatrices, douloureuses, nécessaires. Qu'est-ce que rajoute Benoît XVI ? L'exaltation propre à l'homme et aux institutions doit être émondée. C'est ça le problème quand on fait beaucoup, c'est qu'il y a toujours une forme d'exaltation. On ne se sent plus. On se laisse prendre par la grandeur, on commence à se glorifier de ce qui se voit, ça y est, on fait rouler ça, on fait marcher la machine, là, c'est la grosse entreprise, et puis il n'y a plus d'arrêt dans l'ambition de toujours plus grand. L'exaltation de l'homme par lui-même, moi par moi, doit être émondé. Ce qui a trop poussé doit être à nouveau ramené à la simplicité et à la pauvreté du Seigneur lui-même. Le Seigneur nous éclaire sur ce qui a trop poussé dans nos vies. Il doit être ramené à la pauvreté, à la simplicité du Seigneur lui-même. C'est seulement à travers ces processus de mort que la fécondité se préserve et se renouvelle. Il faut accepter cette logique-là. Pas juger étrange les épreuves que nous avons traversées, petites ou grandes, dans notre travail. Tout ce qui t'advient, accepte-le, et dans les vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Il y a des œuvres qui en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, qui sont bonnes, et qui sont de trop. D'une manière générale, il faut s'obtenir à ce que dit saint Jean de la Croix. C'est-à-dire, au niveau du faire, on en reste à son devoir d'État. S'obtenir à son devoir d'État, sauf inspiration. Écoutez, saint Jean de la Croix, lui, le conseil qu'il dit, il dit attention. Bon, quand le démon ne peut plus nous tenter sur le mal, il nous tente sur le bien. Il les engage, les personnes spirituelles, dans ses filets sous prétexte de bien. Car il sait bien qu'elles consentiraient rarement au mal, manifeste. Partant, vous devez craindre ce qui a l'apparence du bien. Principalement quand vous ne le faites pas par obéissance. Il faut craindre les bonnes intentions. Et se demander, est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que c'est mon devoir présent? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu me demande? Ou est-ce que je suis en train de suivre là, comme ça une idée de bien à faire? Il y a tellement de choses de bien à faire, vous pouvez toujours multiplier, vous pouvez avoir 10 idées par seconde, hein, vous n'aurez pas épuisé le bien à faire. Hein. Est-ce que c'est vraiment le désir de Dieu? Est-ce que c'est la place? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Si vous ne faites pas ce travail, vous n'étonnez pas d'avoir des coups de sécateur. Et si vous faites ce travail, vous en aurez moins. Parce que vous êtes montré vous-même, vous avez des limites au besoin de faire du bien. Qu'est-ce qui nous préserve? C'est de faire le bien. Faire le bien, c'est de faire strictement, de faire vraiment mon devoir, en toute justice. M'ajuster parfaitement à ce que maintenant, dans mon temps présent, je dois faire. Ça peut demander des efforts héroïques, de rester absolument fidèle au devoir. Moi, je me souviens d'une épreuve décisive dans ma vie. J'étais étudiant à Rome et je devais faire une thèse. Petite thèse pour terminer ma maîtrise de théologie, ma licence, comme on dit à Rome. J'arrivais même pas à trouver le titre vraiment. Et surtout, sous l'influence d'un prof, j'étais parti sur l'idée de charité, et puis après, un prof m'avait dit mais non, c'est plutôt faites charité et prudence. Alors, charité et prudence, alors je tournais ça dans tous les sens, j'arrivais pas à faire un plan. Alors, par ailleurs, j'étais en communauté et il y avait une discipline, c'est-à-dire on devait commencer le repas à 20h. On était tous très pris par le temps, et moi ça faisait à peu près 2 mois que j'arrivais à l'heure, à 20h, et qu'il n'y avait personne. Vous voyez le truc? Le repas commençait à 20h20 en fait. Tout le monde était en retard. Il n'y a que moi qui, bêtement, entre guillemets, suivais la loi, c'est-à-dire on a dit 20h, moi dans l'obéissance 20h. Bon. Et au moment où j'étais inquiet, je n'arrivais pas à avancer dans mon travail. Je me suis dit, je ne vais pas redescendre maintenant. 20h, de toute façon, il n'y a personne. Et j'ai senti une petite voix qui me disait, mais non, c'est obéi. Qu'est-ce que vous faites, vous? Hein? On a envie de dire, attends, quel est ton devoir? Les autres, ils n'obéissent pas, mais toi, tu veux obéir ou pas? L'obéissance est un sacrifice. Tout acte d'obéissance à la loi est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Le sacrifice, ça porte des fruits. Puis là, c'était un émondage par rapport à mon besoin de faire. Mais c'était un besoin de faire vraiment par inquiétude. Je me disais, mais je vais gagner encore 20 minutes, je peux gagner 20 minutes. Mais je tournais en rond. Alors ça aurait été 20 minutes pour rien en réalité. Mais j'étais là inquiet en disant, bah, j'ai perdu du temps. Qu'est-ce que tu veux? Ton devoir là, c'est quoi? Ça m'a demandé un effort extrême de descendre l'escalier. Je me souviens, je m'accrochais à la rampe, j'avais mal au ventre. Je descends, je n'avais trouvé personne. J'arrive, de fait, il n'y avait personne. Là, j'étais... Je me suis posé sur le fauteuil, j'étais truc comme ça. J'ai même plus la force d'ouvrir, même plus le goût d'ouvrir. Je me dis, je ne vais pas me récupérer à lire un illustré ou un magazine. De toute façon, je suis resté comme ça, j'étais immobilisé, le sacrifice était tellement grand, je suis resté comme ça, j'étais dans une sorte d'état de brisure, et là, la prière est venue, c'est devenu un état de passivité, mais bon, un état de paix, je m'en souviens, parce que les gens qui se rapprochaient ne parlaient pas, eux-mêmes ils plongeaient, ils tombaient, et tout le monde était en paix, en silence, autour de moi, maintenant, au bout d'un quart d'heure, ça. Puis le dernier est arrivé, on a pu commencer à manger. Moi, j'étais toujours en paix, comme ça, passif, brisé. J'étais brisé par le sacrifice. Et j'ai eu mon sujet. C'est venu comme ça. La lumière est venue. Ça s'imposait pendant le repas, de plus en plus clairement. Je ne sais pas, c'était la prudence dans Christ. Ce n'était pas la prudence et charité, c'est la prudence dans Christ.
Tu connais l'histoire de saint Thomas d'Aquin? Qui était en train de chercher des arguments contre l'arianisme et qui est invité à la table du roi à manger. Le roi était Saint Louis, c'était deux saints à la même table. Et il était agacé, Saint Thomas, il disait j'ai trop de boulot, il ne savait pas que Saint Louis était un saint, donc bon, il n'était pas attiré par ça. Et il disait j'ai trop de boulot, je ne peux pas y aller. Puis il se dit non, il faut que j'obéisse. Il y va, et pendant le repas, tout d'un coup, il a crié Eureka! Et Saint Louis a dit prenez vite note, et il a trouvé l'argument contre l'arianisme au repas avec le roi de France, à cause de l'obéissance.
Oui. Vous voyez, on est monde, on accepte d'être limité dans son action, et en fait, le Seigneur va donner sa grâce par le sacrifice. Donc, on ne va pas passer des heures et des heures à tourner en rond pour essayer de trouver un truc qu'on n'avait pas trouvé. Ça va être donné par grâce, moyennant la mort à nous-mêmes. Là, il faut parier sur la croix. Là, c'est un sacrifice consenti. Mais réellement, hein, moi, ça m'a coûté énormément. J'étais vraiment brisé. Je me disais, c'est pas juste, les autres, ils font pas cet effort, il n'y a pas qu'obéir. Ouais. Alors, je disais ça, on va dire, se tenir vraiment à son devoir. Là. N'ayons pas peur d'être jusqu'au bout dans le discernement de la justice, qu'est-ce qui est juste, en toute justice, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et on n'en rajoute pas. Coller au devoir présent. Tiens-toi à ta besogne. Ça évite l'exaltation. Dans la quantité, dans le machin, toujours plus, tout ça avec la générosité pour le bien des autres, tout ça, les bonnes intentions, c'est pas un problème, mais tiens-toi à ton devoir. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à nous détacher par rapport au faire? D'abord, la certitude que au-delà de ce qu'on fait précisément, ce qui donne la fécondité, c'est la qualité de l'amour, la profondeur de l'amour. Car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive, dit la petite Thérèse. Je sens que plus le feu de l'amour embrase mon cœur, plus les âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums de leur bien-aimé. Car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Avoir confiance que même si on fait peu de choses, le fait qu'il y ait cette qualité d'amour, ça passe à travers des toutes petites choses. Et c'est ça qui fait du bien aux âmes, beaucoup plus que la quantité. Parier sur l'amour, le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les œuvres réunies. C'est saint Jean de la Croix, noté et cité à deux reprises dans ses lettres par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle s'est appuyée là-dessus. Le plus petit mouvement, elle l'avait mis d'ailleurs sous une image. Elle l'avait recopié sous une image. Le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les œuvres réunies. Je vais accrocher à ça. Et une bonne illustration de ça, eh bien, c'est ce que Jésus a vécu. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa passion? Il s'est passé quelque chose qui ressemble, dit Benoît XVI, à une fission nucléaire. L'explosion de l'atome. L'atome, c'est le plus petit. Et pourtant, c'est capable de dégager une énergie incroyable qui a une puissance telle qu'elle peut transformer, engendrer quantité de transformations. Écoutez, Benoît XVI. Il anticipe sa mort. Il parle de ce que Jésus a vécu le jeudi saint. Il anticipe sa mort. Il l'accepte au plus profond de lui-même. Il l'accepte comme la coupe que le Père lui présente. Il l'accepte, mais il n'accepte pas passivement comme ça. Il la transforme en un acte d'amour. Va la transformer en quoi? En un acte d'abandon total et d'offrande de lui-même pour le salut des âmes. Sachant que par son obéissance, jusqu'à la croix, il pourrait réparer toutes nos désobéissances. Il l'accepte, et même il l'accepte dans l'action de grâce. Parce que pour lui, c'est aussi la glorification. Glorification de la gloire de l'amour le plus grand, dans son humanité. Ce qui de l'extérieur est une violence brutale, une injustice terrible, la plus grande qui soit, devient de l'intérieur l'acte d'amour qui se donne totalement. Frères et sœurs, tout ce que j'ai dit ce matin par rapport à l'acceptation, le fait, vous voyez, le chemin ultime, c'est, j'ai dit l'acceptation, puis après il y a l'offrande. Je n'ai pas insisté là-dessus. Maintenant, j'en viens là. Si nous acceptons, c'est pour aller plus loin dans notre abandon au Père, dans notre obéissance à sa volonté, pour aller jusqu'au bout de l'amour. Parce que l'amour le plus grand, c'est quoi? L'amour le plus grand, on dit, c'est de donner sa vie pour ce qu'on aime. Mais donner sa vie, en terme grec, c'est, ici, c'est déposer son âme. C'est le même verbe que quand Jésus dépose son vêtement pour laver les pieds de ses apôtres. Il n'y a pas de plus grand amour que de déposer son âme. De déposer son âme à qui? Entre les mains du Père. Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, dit saint Pierre, remettent leur âme au Créateur fidèle en faisant le bien. Remettent leur âme en persévérant dans le bien. On peut remettre son âme tout en continuant à être actif et à faire ce qui dépend de nous, mais au fond de notre cœur, on se remet, on se livre, on s'abandonne. Et on vit cet abandon comme une fission nucléaire. Tout va se jouer là, dans la profondeur de l'abandon. Cet abandon, Jésus l'a vécu pour nous, pour que nous puissions vivre en lui. Ça, c'est l'explosion atomique. Le vrai don, il est dans l'abandon. Le don total de nous-mêmes, il est dans l'abandon à Dieu, le Père, dans le Christ. Et vécu pour les autres. Moi, quand j'ai vécu des épreuves, j'ai essayé, c'est pas facile, d'aller jusqu'à offrir la souffrance, offrir le chemin pour ceux qui me condamnaient, me jugeaient. Et c'est un long chemin, hein, mais on sent que la vraie victoire, elle est allée jusque-là. Pas simplement de s'abandonner en faisant « J'ai confiance en toi, Seigneur, tu transformeras le mal en bien », mais de s'abandonner aussi dans un sens de la rédemption, une participation à la rédemption. Ça, si on peut aller jusque-là, jusqu'à un amour sauveur qui accepte de souffrir à cause de l'autre pour l'autre, et ça inclut le pardon, à ce moment-là, il y a la capacité d'assumer la faute de l'autre, de porter le fardeau de l'autre, porter le fardeau les uns des autres. Si on peut aller jusque-là, un amour qui assume et qui consume, par la profondeur de son obéissance, il consume le mal du péché qui est essentiellement désobéissance. Le plus grand service qu'on puisse rendre aux autres, voyez, c'est de les supporter. C'est-à-dire de les porter avec leur poids de faute, d'injustice, de mensonge, tout ce qu'ils nous font subir, de le supporter avec humilité, douceur et patience pour aller jusqu'au bout de l'abandon. Ça ne nous empêche pas de leur dire que ça c'est pas bien, de les corriger, tout ça, mais sur fond de patience, en épousant la patience du Christ, de telle manière que toutes les activités que nous pouvons faire pour que les choses soient remises dans l'ordre soient enracinées dans le mystère de la passion de Jésus, soient enracinées dans cet amour sauveur, qui est le seul qui en définitive puisse vraiment vaincre le péché. C'est clair ? Ce n'est pas une passivité où on se dit « bon, ben, c'est Dieu qui va faire, moi j'accepte tout, et puis c'est tout, et puis voilà, tant pis. » Non, on est actif de la manière la plus forte dans cet acte d'abandon, et à l'intérieur de cet abandon, on discerne, on a la force et la lumière pour discerner les actions concrètes qu'on doit faire. Mais enraciné en Jésus crucifié, la vraie vie. Demeurez en moi. Si vous voulez demeurer en moi, demeurez dans mon commandement. Mon commandement, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner, que de livrer son âme pour ceux qu'on aime. Demeurez en moi. Vivez de ma charité. Laissez-moi vous prendre dans mon mouvement d'offrande. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mort à nous-mêmes, elle est dans cet abandon total au Père, uni à Jésus, sur la croix. Et donc, ici, nous comprenons qu'en définitive, les épreuves ne sont pas simplement la matière à la foi, à une foi plus grande, à une espérance plus grande, mais la matière à un amour plus grand. Le Fils, tout Fils qu'il était, Jésus a pris de ce qu'il souffrit d'obéissance. Lui-même Jésus a trouvé dans l'épreuve, dans la souffrance de la croix, la matière pour aller jusqu'au bout de son abandon à son Père. Et après avoir été rendu parfait de cette manière-là, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe du salut éternel. Enfin, seule notre espérance, elle est là. Une explosion nucléaire de l'intérieur. Comme elle a eu lieu à la mort de Jean-Paul II. C'est une explosion nucléaire d'aller jusqu'au bout de son abandon. On a vu la bonne odeur de l'amour pur se répandre dans l'Église tout entière. Les âmes être attirées à Dieu. Ce miracle de l'élection du cardinal Ratzinger. Voilà, on a été témoin de ça. Mes frères, c'est ça le renouveau de l'Église pour moi, là maintenant, dans la situation dans laquelle on est. On ne va pas s'en sortir en essayant de rafistoler les choses, de sauver les meubles, d'empêcher les maisons de s'écrouler à coups de bras. Il y a des choses qui vont s'écrouler. Il y a beaucoup de choses qui nécessairement vont s'écrouler, en tout cas en France. Il y aura des zones désertiques forcément, il n'y aura plus de prêtres dans certaines paroisses, c'est évident. Dans les années qui viennent, mais il y a cette espérance, un petit reste purifié qui accepte jusqu'au bout la logique de la croix, qui participe intimement ainsi à l'œuvre de la rédemption, à partir duquel la lumière puisse à nouveau revenir, éclairer les cœurs, les consciences, redonner la vie. C'est l'exemple que nous a laissé Jean-Paul II, c'est ce que vit Benoît XVI. Je vous ai cité dans le verset, vous verrez, je vous ai cité ce que dit Benoît XVI en répondant à la question d'un prêtre qui lui dit une situation pastorale inextricable, une situation pastorale inextricable, on va voir que ça bientôt, hein. C'est-à-dire on peut plus arriver à tout tenir, c'est inextricable. Et il dit, le pape n'est pas un oracle, je vous dis, j'ai pas de solution à vous donner, comme ça, il n'y a pas une technique pour arriver à s'en sortir, ben non, on touche le fond. Bon. Eh bien, je partage donc avec vous ces questions. Je souffre moi aussi. Mais tous ensemble, nous voulons d'une part souffrir sur ces problèmes, également tout en souffrant, transformer les problèmes. Car la souffrance est précisément la voie de la transformation. Et sans souffrance, on ne transforme rien. Ça, vous ne l'entendez pas tous les jours. Entendez-le bien aujourd'hui. Comprenez-le bien. Cette logique de la croix. Sans souffrance, on ne transforme rien. Pourquoi ? Parce que Jésus, tout fils qu'il était, a pris par la souffrance l'obéissance, l'abandon. C'est le mystère de la croix qui est là devant nos yeux. C'est notre force à nous, c'est notre espérance à nous en tant que chrétiens. Et on se priverait de cette sagesse. Et on dirait, ne parlez pas de souffrance, Dieu ne veut pas la souffrance. C'est quoi ça ? Ce qui vient en ennemi de la croix du Christ. La Vierge l'a dit à la rue du Bac, hein, à Catherine Labouret. Viendra un temps où la croix sera méprisée. Qu'elle ne soit pas méprisée dans le cœur des chrétiens. Parce qu'elle est notre espérance, notre salut. Hier, je vous disais, il faut se réconcilier avec la loi morale. Maintenant, je vous dis, il faut se réconcilier avec la logique de la croix. Je garde ça inscrit dans mon cœur. Sans souffrance, on ne transforme rien. Oui, mon petit Louis, là. Sans souffrance, c'est bien tes projets, tes idées, tout ça, mais Dieu, il a une autre logique. L'humilité, la patience, l'abandon, traverser les épreuves et laisser la fission nucléaire s'opérer. Tel est le sens de la parabole du grain de blé tombé en terre. Ce n'est qu'à travers un processus de transformation de la souffrance que l'on parvient au fruit. Et la solution apparaît. Pour nous, l'inefficacité apparente de notre prédication ne constituait pas une souffrance. Si pour nous, l'inefficacité apparente de notre prédication ne constituait pas une souffrance, ce serait un signe de manque de foi, un manque d'engagement véritable. Nous devons avoir à cœur ces difficultés de notre temps, les transformer en souffrant avec le Christ et nous transformer ainsi nous-mêmes. Donc vous voyez comme programme, face à un monde en décomposition progressive, où tout le monde va être atteint, donc vous voyez comme programme, vous en voulez un autre. Vous avez une autre espérance, une autre solution que la croix.
Il disait Pierre, pour ça je me souviens, il parlait de la croix glorieuse. Et la croix lui donnait la frousse, enfin, il avait peur de la croix. Et il disait que quand il avait comme paroisse, la paroisse Saint-Figuroux à Paris. Et il disait qu'il préférait prier devant le Sacré-Cœur que devant la croix. Il disait toujours que la croix lui avait toujours donné la frousse et qu'il préférait se réfugier dans le cœur de Jésus, dans son brasier d'amour, pour brûler ses péchés, mais aussi brûler cette peur.
On se réfugie dans le cœur de Jésus, tout à fait. On lui demande son humilité, sa douceur, sa patience. On se réfugie dans son charité à lui, c'est un don. C'est lui qui nous conduit sur le chemin de l'abandon. Ce qu'il demande, c'est de croire en lui à ce moment-là, des yeux fixés sur lui. C'est ce beau passage de l'Épître aux Hébreux, hein, où il est dit, hein, « Voici donc enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, tous les saints qui nous ont précédés, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège, et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Voilà. Courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Là, on se sent plus de force. On se dit, mais courir avec constance, l'épreuve qui nous est proposée. La croix me fait peur. Je ne sens pas de force pour courir cette épreuve. Pourtant, elle est là. Je ne peux pas l'éviter. De toute façon, elle est là. Est-ce que je la cours avec constance ou je la subis passivement dans la révolte, dans la colère, hein? Et qu'est-ce que dit les fixes? Courir avec constance l'épreuve qui nous est posée, fixant nos yeux sur l'initiateur de notre foi qui l'amène à sa perfection, Jésus. Fixant les yeux sur lui. Il n'y a plus que ça à faire. Fixer Jésus, ce Jésus crucifié. Les yeux. Jésus crucifié et ressuscité. Fixer les yeux sur lui. Sur son cœur. Lui qui mène notre foi, notre abandon à sa perfection, lui qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix dont il méprisa la famille et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. Voilà.
Je pense aussi à un témoignage de ma fille qui, un jour, n'en pouvait plus. Il me téléphone et me dit... Je vais aller à Pontmain demander à Marie de pouvoir. Moi, j'y arrive plus, j'y arrive pas. Et je vais aller à Pontmain. Et elle est revenue de Pontmain, elle m'a dit : Maman, la Vierge Marie m'a consolée. Et elle me dit : J'ai vu comment Jésus avait eu besoin de Marie au pied de la croix, qu'il soit là. Jésus a eu besoin de la consolation et de la présence de Marie. Et elle m'a dit : Moi aussi, j'avais besoin de la consolation et de la présence de Marie.
Alors, Jésus nous prend dans son offrande, et il le fait de manière particulière au moment de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est se retrouver au pied de la croix. Le sacrifice de Jésus est rendu présent quotidiennement dans la vie de l'Église pour que nous puissions rentrer dans cette dynamique. Comme dit Benoît XVI, l'Eucharistie nous attire dans l'offrande de Jésus. Donc c'est vraiment la manne dans le désert, c'est la force pour traverser les épreuves. Et Jean Paul II, il est mort dans un grand acte d'offrande et en nous laissant l'Eucharistie. Il est mort pendant l'année de l'Eucharistie, en nous demandant de mettre, c'est son dernier message, de mettre l'Eucharistie au centre de chacune de nos journées. Ça, c'est un message prophétique. Et il s'appuie sur l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. C'est-à-dire, ils disent à un moment, mais le soir vient, ils disent à Jésus, mais le soir tombe. Le soir tombe, ne le laisse pas, continue avec nous. Alors, Jésus accepte d'aller dans l'auberge, alors qu'il l'avait fait à un moment. Il semblait à un moment vouloir partir sur un autre chemin. Il dit non, reste avec nous Seigneur. Par le soir tombe. Et Jean-Paul II commente en disant reste avec nous Seigneur parce que l'Église n'a pas fini de souffrir et l'Église n'a pas fini de connaître des épreuves purificatrices. Elle est éprouvée. Reste avec nous dans l'Eucharistie pour nous conduire sur ce chemin de l'abandon, de l'amour victorieux, de l'amour sauveur, de l'amour vainqueur. Reste avec nous dans l'Eucharistie. Prends-nous dans ton offrande. Jésus nous prend dans son offrande. C'est garder les yeux fixés sur lui et le laisser faire. Le laisser nous prendre dans ce mouvement. Et à la messe, il nous donne sa présence en même temps. Sa présence, elle est douce, elle est consolatrice. C'est la compassion de Jésus pour nous. Dans la souffrance, il y a une présence. Présence humble, douce de Jésus, qui est là, qui nous appelle à le suivre avec force. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même, prends ta croix, accepte, suis-moi dans l'abandon, dans l'offrande. Et en même temps, il y a une présence elle-même qui est là, la douceur de la présence de Jésus. Nous ne serons jamais seuls. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous dans l'Eucharistie. Notre personne me disait que la vigne, elle a besoin aussi du soleil. Elle a besoin du soleil pour le fruit. Du soleil dépend effectivement du sucre. Il y a les minéraux, puis il y a le sucre. Le sucre, il vient par les feuilles. Il monte dans la grappe. Ça va dépendre du soleil. Nous, nous avons besoin de nous laisser... mettre sous le soleil de la tendresse de Dieu, de laisser la guérison. Il y a une part de l'Écriture qui dit que Dieu est comme un soleil qui porte la guérison dans ses rayons. C'est le Christ, notre soleil, qui porte la guérison dans ses rayons. Nous mettons sous le rayonnement de Jésus, de son amour, qui porte la guérison dans ses rayons, qui porte la consolation. Ça va mûrir sous le soleil. Il y a les épreuves, mais il y a le soleil aussi. Notre soleil, c'est Jésus crucifié, et la puissance de son amour qui nous rejoint jusque dans l'intime, les fibres les plus cachées de notre humanité, qu'il connaît, les souffrances les plus intimes. Sainte Marie nous introduit dans l'Eucharistie, elle nous aide à nous laisser faire par Jésus, elle est la première à s'être tenue au pied de la croix et donc à avoir laissé Jésus l'introduire dans son offrande. Elle est la mère de notre foi, elle est la mère de notre espérance, elle est le cou entre la tête et le corps, entre nous et Jésus, elle nous aide à nous laisser faire, quoi. Elle est là pour nous rassurer et nous dire « laisse-toi faire, laisse-le faire ». Toute vie chrétienne est une messe et toute âme en ce monde est une hostie. Vive de l'Eucharistie pour que notre vie devienne eucharistique. Toute vie est une messe, toute vie chrétienne est une messe, toute âme est une hostie. Martre Beau, la vie eucharistique. Progressivement, que nos actions soient faites dans un esprit d'offrande. Je vous l'ai dit, toute obéissance est un sacrifice que l'on peut offrir, qui rejoint le sacrifice de Jésus. Et l'Église nous dit que pendant la messe, nous pouvons offrir à Dieu tous nos actes d'obéissance, tout ce que nous avons tâché de vivre dans l'obéissance, dans un esprit de renoncement à notre volonté propre, d'obéissance au Père. Tout ça est repris dans l'obéissance parfaite du Christ. On est capable par nous-mêmes d'aller jusqu'au bout de l'obéissance. Alors, nos actes d'obéissance sont repris dans l'obéissance de Jésus, intégrés à son sacrifice. Pendant la messe, au moment de l'offertoire, on présente le pain et le vin, mais on présente aussi nos vies pour que ça soit reprise dans le sacrifice de Jésus, nos personnes. C'est ça le sacerdoce baptismal, c'est de faire de sa vie tout entière une offrande. Offrez vos corps en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu, dit Saint Paul. Ça, c'est la vraie vie, mes amis. Ça, c'est la vie qui porte un fruit qui demeure. Voyez ? Là, c'est le vin délicieux. Le vin délicieux de l'amour qui va jusqu'au bout. Il n'y a rien de plus grand et de plus beau à vivre que ça. Je ne dis pas que je suis installé dans cet amour-là, non, mais je l'ai vécu à certains moments, je ne peux pas le nier. Puis ça donne le goût de continuer, jusqu'à ce que vraiment on soit installé dans cet amour le plus grand. Mais déjà, de comprendre que là est le secret, la vraie réussite, il faut y tendre. Il faut tendre vers la sainteté. Il peut y avoir des moments où on vit des états de sainteté, mais on n'est pas encore saint. Moi, je ne suis pas un saint, je suis en marche vers la sainteté, mais j'ai goûté que rien ne valait cet amour pur. Que ce qu'il y avait de plus beau, c'était la joie la plus intime, et qu'en même temps, il y avait ce qu'il y avait de plus puissant. Et donc, on avance dans ce sens-là. La petite graine de la charité, elle doit chaque jour grandir, croître, pouvoir produire un jour un fruit tout à fait mûr. On ne s'arrête pas à mi-chemin. Alors, je me disais au cours d'introduction qu'on vise à la maturité chrétienne en marchant vers la sainteté. Je dirais la maturité chrétienne, c'est de parier sur l'amour, de comprendre vraiment le sens de notre vie et de ce qui donnera une vraie fécondité à notre vie. C'est ça déjà la maturité, c'est d'être dans l'axe. Moi, je me sens mûr, à vrai dire. Je me sens un chrétien adulte, conscient de la réalité du combat. Mais j'ai mis du temps, hein. J'étais longtemps dans ma bulle, hein, dans mon idéalisme de prêtre généreux, dans tout ça. Maintenant, je me sens à peu près mieux. Voilà, hein, 52 ans. Hein. Je me souviens du paroissien qui m'avait dit, ça m'avait vexé sur le moment, quand vous aurez 50 ans, vous serez un bon prêtre. Moi, j'avais 30 ans, je ne suis pas déjà un bon prêtre. Je ne pouvais pas d'accueillir, je ne voyais pas ce qui me manquait. Maintenant, je vois ce qui me manquait. Elle avait raison, c'était une dame âgée, elle voyait bien que j'étais immature, que j'étais généreux, mais que ce n'était pas encore ça. Elle avait raison, hein, ça m'avait vexé. En même temps, ça m'a travaillé. Elle me dit, j'ai jusqu'à 50 ans pour me préparer. Préparons-nous à être un bon prêtre. Si je voyais le temps passer, voilà, plus que 3 ans. Hein. Mais il vaut mieux, vous voyez, travailler sur soi, se dire que l'important, c'est le fruit mûr qu'on porte, c'est pas de vouloir porter du fruit tout de suite. D'arriver à un moment où on portera vraiment un fruit qui en vaut la peine, quoi, plutôt que de vouloir s'exciter et s'agiter.
Oui, Pierre Grossa nous racontait qu'après sa conversion, il a fait un calcul en disant, voyons, la petite Thérèse est entrée au couvent, je ne sais plus à quel âge, à 19 ans ?
Avant,
15 ans. Et puis, elle est allée au ciel à 24 ans. Donc, il a fait un petit calcul et il a dit, bon, en 5 ans ou en 7 ans, oui. En 7 ans, il faut que je devienne saint. Et alors, il disait très simplement, ben, je ne suis pas arrivé.
J'ai perdu
mon pari.
La course.
J'ai voulu faire la course avec
alors,
Thérèse.
Après, il a pris Sainte Thérèse d'Avila.
Ah bon ?
Oui. Vas-y. Il a été dégoûté, il s'est dit, je n'ai pas réussi avec Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, je vais essayer avec Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, elle avait 17 ans dans son couvent avant de se convertir. Alors il a fait le même calcul, au bout de 17, il s'est dit, zut, j'ai encore loupé, qui est sur qui je vais m'appuyer.
40 ans encore raté.
Sainte Thérèse d'Avila n'a jamais parlé au cours introductif, elle a perdu du temps parce qu'elle avait des confesseurs qui disaient, c'est pas grave. Vos affections, comme ça, vous pouvez garder des amitiés qui n'étaient pas... Elle n'a pas réussi à purifier son affectivité avant une temps parce qu'elle était mal conseillée. Moi, si je n'avais pas eu la personne dont je vous ai parlé pour m'aider à me délier de liens affectifs, je restais plaqué au sol et c'était terminé. Hein. Purification de l'affectivité, ça c'est un gros morceau. Purification d'affectivité dans le mariage, on en a parlé pas mal à Nazareth, hein. Je ne reprends pas tout ce que j'ai dit sur la purification de l'amour conjugal, purification des amitiés, tout ça, c'est une chose importante. Vous voyez, il y avait le côté purification d'affectivité, là, il y a émondé pas mal, hein, au niveau des relations, oui. Et puis il y a le côté purification de l'activité, enfin du besoin de faire, mais c'est autre chose, c'est un besoin de développement, un besoin de se réaliser comme ça, et c'est là aussi, c'est le détachement par rapport aux œuvres est peut-être plus difficile encore que le détachement par rapport aux créatures. Mais il y a les deux qui sont nécessaires. Moi, je ressens plus maintenant d'aller plus loin dans le détachement par rapport aux œuvres sans nécessairement passer 13 ans dans un camp comme Van Toan. Des fois, je l'envie, des fois, je me dis, on peut peut-être s'en passer. Enfin, si vous voyez partir dans un camp, vous saurez pourquoi. Bah écoutez, il était un bon évêque, il est devenu un saint. Ça vaut la peine quand même d'avoir fait 13 ans de pause, enfin de pause, de purification. Il aurait pu rester un très bon évêque toute sa vie et puis pas arriver à porter le fruit mûr. Tandis que vraiment, au Vatican, il dénotait, c'était le saint. Enfin, il y en avait deux, il y avait Cardinal Ratzinger et lui. Bon. Moi, je trouve que ça vaut la peine, enfin. Arrête le mazou, c'est n'importe quoi, c'est une question de calcul, savoir ce qu'on
oui,
veut,
mieux.
Calculer la dépense, je trouve que... Bon, enfin, c'est la dépense, c'est Jésus qui la calcule pour nous, et en tenant compte de notre fragilité, et donc il n'en mettra jamais plus que nous pouvons supporter. La seule chose qui fait, c'est que nous en rajoutons, en restant pas dans le moment présent. Chaque jour suffit sa peine. Il y a des gens qui disent c'est trop long, mais ils sont toujours à imaginer les épreuves à venir. Ils en rajoutent dans la tête comme ça, et puis bon, hein, chaque jour suffit la peine. Ça, c'est sûr que moi, j'ai traversé cette épreuve parce que je me suis accroché à rester vraiment au moment présent. Ça veut dire aussi ne pas penser, accepter, comme je vous l'ai dit, le vide au niveau de l'esprit. On ne pense plus, il n'y a plus d'avenir possible, on ne voit plus rien, on s'en remet à Dieu, on arrête d'imaginer des choses, surtout d'imaginer le pire. Silence, mets ta bouche dans la poussière. Laisse passer la vague. Quand c'est Jésus qui nous... Parce que j'étais sur la côte normande grâce au Chevillard, et j'ai vu, au mois de novembre, des gens surfer sur des grosses vagues, au mois de novembre, avec un grand vent. Et ça, c'est extraordinaire, ça, c'est la vie chrétienne. On surfe sur les vagues du mal, les vagues du monde. Et on surfe sans se laisser entraîner dans les rouleaux. Se laisser entraîner dans les rouleaux, ce serait répondre au mal par le mal. On se laisse entraîner dans le grenage du mal. Non, on passe au-dessus, on surfe au-dessus. L'amour, c'est profiter de tout, dit saint Jean de la Croix, du bien comme du mal. L'homme sage, qui garde les yeux fixés sur la croix, sur Jésus crucifié, il sait profiter de tout. Il sait toujours rebondir. Il y en a certains même qui sautaient. Le vent était tellement fort qu'il s'élevait au-dessus des vagues, même jusqu'à à peu près 1m50. Ça faisait des plongeons comme ça, et puis reprenait la vague, passait au-dessus. Extraordinaire comme ça. Avec Jésus, on peut surfer sur les vagues d'un monde de violence, d'un monde de plus en plus dur, on surfe. On ne bute pas sur les obstacles, on ne se laisse pas abattre par la dureté du monde, on traverse. Ceux qui espèrent dans le Seigneur déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils sont poussés par le vent, le souffle de l'amour divin qui les pousse, qui les fait traverser les épreuves les plus dures. Finalement, c'est les grands vainqueurs. Pour ça, je disais, il faut se battre, pas se débattre. Il faut se battre dans l'abandon, en laissant Jésus conduire la planche du surf et souffler dans les voiles, et pas se débattre désespérément avec nos petits calculs, nos stratégies, nos... Le fruit, dit Benoît XVI, le vin nouveau délicieux que la vie doit porter, c'est l'amour qui se donne sur la croix. Le fruit que le Seigneur attend de nous est l'amour qui accepte avec lui le mystère de la croix. Voilà le fruit. Seulement ainsi que Dieu nous purifie, nous porte à porter le fruit qui débouchera sur le mystère eucharistique, c'est intimement lié à l'Eucharistie. Le vrai fruit, c'est l'amour qui est passé par la croix, par les purifications pratiquées par Dieu. Voilà, je terminerai simplement en disant, nous sommes solidaires les uns des autres. L'Eucharistie nous unit à Jésus et nous unit les uns aux autres. Nous unit à Jésus en même temps qu'elle nous incorpore à l'Église. Nous sommes incorporés au corps du Christ et incorporés à l'Église dans l'Eucharistie. Et nous traversons ces épreuves ensemble. Vous voyez, j'ai traversé des choses parce que j'étais aussi aidé, porté par d'autres. Et puis on a besoin d'une débrancher sur soi. On a vraiment besoin de s'exhorter, de s'encourager, de se porter les uns les autres, de se supporter les uns les autres, de s'aider à traverser ces épreuves. Il ne faut pas rester dans son petit coin comme ça, à pleurer dans son coin comme un petit oiseau comme ça. Non, il faut vraiment s'intégrer dans l'Église. L'Église, c'est le lieu du combat, mais c'est aussi le lieu où l'Esprit-Saint est présent, agissant. Quand vous êtes deux ou trois sont réunis au moment, je suis là au milieu d'eux, je suis présent, agissant. Donc moi, je vous invite aussi à vous enfoncer, pas seulement dans Christ, mais vous enfoncer dans son corps ecclésial qui est l'Église, ça ne fait qu'un. En vivant toujours plus de l'Eucharistie, toujours plus des sacrements, de la confession, mais aussi en vivant toujours plus la vie fraternelle, la communion fraternelle. Vous retrouvant pour prier ensemble, pour vous porter les uns les autres ensemble. Tu veux dire quelque chose pour terminer?
Ah si, ta vie communautaire, quelque chose, j'en marque. Quelque chose. Je suis pris dépourvu. Non, moi, l'expérience que j'ai, c'est que, par exemple, des assemblées de prière ou des rassemblements communautaires, j'arrive tout désarticulé, complètement éparpillé, comme on est peut-être plusieurs à faire cette expérience dans cette vie. Et les frères me requinquent, et c'est absolument extraordinaire. Et quand on se rassemble pour prier, l'Esprit-Saint est au rendez-vous. En fait, on le convoque et il ne peut pas faire autrement que de venir. Les frères sont là au nom de Jésus et l'Esprit vient et comme c'est un... Il est pneumatique, vous savez, il nous regonfle absolument. Et moi, je repars requinqué comme tout. Voilà, pour moi, c'est ça la grâce des frères, la grâce de l'Église. C'est très mystérieux et ça marche à tous les coups.
Je termine par Éphésiens 4. Hein? Donc, il dit, Éphésiens 4, il parle du fait que dans l'Église, chacun a sa place dans la construction du corps du Christ. Nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à constituer cet homme adulte qui réalise la plénitude du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Nous ne nous laisserons plus baloter, emporter à tout vent de la doctrine, égarés par le prince des ténèbres. Nous serons un dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous nous aidons les uns des autres dans la croissance de la vérité aussi, pour accéder à une plus grande connaissance de Jésus-Christ. Nous aurons besoin des autres. Nous avons besoin de des prêtres, nous avons besoin du magistère, nous avons aussi besoin les uns des autres, tout simplement. Nul n'est bon juste sur soi. Et alors il termine en disant, mais vivant dans la vérité, faisons la vérité dans l'amour, littéralement, faisons la vérité dans l'amour, ce que nous avons vu hier soir, nous grandirons en tout. Faisons la vérité dans l'amour, obéissons à la vérité dans l'amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même dans la charité. Ouais, tout est là. Nous grandirons en tout, mais dans le corps de l'Église qui se construit lui-même progressivement dans la charité, chaque partie ayant sa place, tout s'actionne, c'est le Christ la tête, et c'est comme ça qu'en membre d'un corps, nous nous construisons, nous nous édifions nous-mêmes à l'intérieur de l'édification de l'Église, condition d'accepter d'être incorporé à l'Église, d'être dépendant de l'Église, dépendant les uns des autres, de nous ajuster dans l'Église, d'être une pierre vivante de l'Église, de ne pas rester comme ça, comme un petit individualisme misérable, centré sur nous-mêmes, mais d'accepter d'être pris dans un corps, faire partie d'un corps. Me revient une parole de Pierre Costa. Pierre Costa vient marquer quand on jette un caillou dans un fleuve, dans un torrent, le torrent emporte le caillou. Quand il y a plusieurs cailloux qui sont les uns contre les autres, ça peut résister à la force du torrent. Alors, dans les épreuves qui nous attendent, ne restons pas isolés. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Vivons le mystère de l'Église et enracinons-nous ainsi pleinement sur la ville pour porter le fruit mûr qui sauvera le monde. Amen.